comment décoder l'attitude des autorités russes. On en parle ce matin avec la politologue spécialiste de la Russie, Nina Bashkatov.
Oui, l'attaque dans cette salle de concert qui a donc fait au moins 137 morts. C'est le bilan provisoire. Vladimir Poutine qui a promis, je sais, de punir ses responsables de l'attaque, mais n'a rien dit de la revendication de l'organisation État islamique et par contre a assuré que les assaillants étaient en chemin vers l'Ukraine.
Les quatre auteurs directs de l'attaque terroriste, ceux qui ont tiré sur des personnes et les ont tués, ont été retrouvés et placés en détention. Ils ont tenté de s'enfuir et se diriger vers l'Ukraine, où, selon les premiers éléments, une fenêtre leur avait été préparée du côté ukrainien pour franchir la frontière.
Bonjour Nina Bashkatov. L'attaque du Crocus City Hall a été revendiquée par l'organisation terroriste État islamique, mais les autorités russes, on vient de l'entendre, ont mis en avant une piste ukrainienne. Comment est-ce que vous décodez cette communication ?
Il y a deux choses. La première, c'est qu'il semble que Poutine fasse vraiment une fixation sur l'Ukraine et plus précisément, je crois, sur le président Zelensky, qui lui fait la même chose, parce que si vous avez vu son intervention, c'était pas tellement habile par rapport à ce qu'il nous a habitués. Et l'autre, c'est l'idée que ce qu'il dit, ce ne sont pas que les Ukrainiens les ont aidés, c'est qu'il y avait une fenêtre pour redescendre en Ukraine. Alors, c'est pas tellement original non plus, parce que si vous regardez la géographie, si vous êtes à Moscou, vous venez de commettre un attentat, par où pouvez-vous partir, sinon par le sud et la frontière ukrainienne, puisque les autres, vous êtes dans des pays où vous n'avez aucune chance de passer. Et donc, il a, je trouve, perdu une occasion extraordinaire en se concentrant sur la question ukrainienne, de ne pas profiter de ce sorte de consensus qui est contre ce mouvement islamiste que l'on retrouve non seulement chez les Occidentaux, que l'on a vu dans les déclarations officielles de support, etc., mais aussi dans tous les pays arabes. Donc il avait l'occasion, alors qu'il est une sorte de paria, en tout cas en Occident, de renouer avec « nous sommes tous face à la même menace », ça nous renvoyait presque aux attentats, les tours à New York. Et il vient tout à coup avec quelque chose qui semble tellement peu crédible, je répète, même s'il voulait s'enfuir par l'Ukraine, ça ne veut pas dire qu'il y a une complicité officielle.
Il évoque cette fuite vers l'Ukraine, mais il n'évoque pas la revendication de l'État islamique. Le non-dit est aussi peut-être aussi intéressant que justement cette piste ukrainienne. Ça veut dire qu'il est en train de tisser un narratif qui pourrait marcher en Russie. Évoquer ne fût-ce que l'Ukraine, ça fonctionnera plus qu'appuyer cette revendication de l'État islamique.
Je crois que ça ne fonctionne pas si bien, et je ne suis pas certaine qu'il ne va pas être obligé très rapidement de remettre un peu les choses plus en ordre, parce que les Russes se rendent compte, d'abord ils ont été évidemment terriblement choqués par cet attentat, mais aussi ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont incohérentes dans ce qu'on leur dit, notamment par rapport aux assaillants. Parce qu'on a d'abord dit que donc c'était pas un attentat suicide, c'était des gens qui voulaient s'échapper, donc ils avaient une possibilité de passer la frontière. On a parlé d'une voiture blanche qui les avait emmenés. Il y a eu une déclaration extrêmement bizarre, mais il est un spécialiste de la chose, de la part de Kadyrov, en disant que ce sont ces hommes qui, à la frontière avec la région de Bryansk, ont arrêté les quatre individus. Puis on nous les promène de manière à ce qu'on ne voit pas leur visage, alors qu'on a eu le visage sur les photos qui ont été prises dans la salle de théâtre. Donc les gens se rendent compte. Ils ne mettent pas en doute le fait que c'est vraiment un attentat terroriste, mais ils mettent en doute le fait qu'il y a des informations de nouveau qui ne circulent pas en temps utile pour que la population ait l'impression qu'on ne lui cache rien et que c'est vraiment quelque chose de maîtrisé.
Et Nina Bashkatov, vous suivez justement ces médias russes et ce qui se passe pour l'instant à Moscou. C'est un élément qui pourrait renforcer Vladimir Poutine, le déstabiliser. Il vient d'être élu.
Oui, il n'a pas besoin d'être renforcé. De toute façon, même s'il n'était pas fort, il se considérerait comme un homme fort. Donc là n'est pas la question. Mais je crois que la piste tadjik, qui est extrêmement crédible, il faut quand même se rappeler que le Tadjikistan est un pays qui est en guerre civile dès son indépendance, qui a été le lieu d'introduction de toute une série de ces militants islamistes en venant d'Afghanistan, que toute la région d'Asie centrale a été déstabilisée, qu'il existe un terrorisme tadjik. D'ailleurs, la France a déjoué plusieurs complots l'année passée. Mais en même temps, les tadjiks, ça garde quand même... Ce sont des gens qui sont relativement bien intégrés. Il y en a énormément. Il y a des millions qui travaillent en Russie et notamment à Moscou.
Ça pourrait créer des tensions aussi sociales.
Voilà. Donc, je crois qu'il hésite un peu aussi avant de pointer du doigt, parce que vous avez même des soldats tadjiks qui, en fait, c'était des migrants à qui on a offert d'aller combattre en Ukraine en recevant un passeport russe. Donc, c'est presque une affaire intérieure.
Et États-Unis avaient alerté Moscou d'une possible menace, justement, d'attentat. Est-ce que cet élément-là aussi pourrait, à un moment donné, revenir en boomerang vers Vladimir Poutine? Les services de renseignement russes ont été alertés, n'ont pas agi.
Oui, ça, on sent déjà que ça pourrait revenir très facilement en disant, finalement, on a été prévenu. D'un autre côté, vous avez deux types d'explications. Une, c'est que les services secrets sont essentiellement maintenant centrés sur ce qui se passe en Ukraine et qu'il y a un lien avec l'Ukraine. Et la deuxième chose, c'est que les États-Unis, on a vu ça en France très souvent, on prévient qu'il va y avoir un attentat. Ça ne vous dit pas si ça va arriver dans un terrain de sport en Sibérie ou bien dans une bibliothèque publique à Moscou.
Et dans le contexte géopolitique qu'on connaît, avec les tensions notamment des États-Unis, c'est un élément qu'on... Moscou a dit que c'était une tentative de déstabilisation des Occidentaux, en fait, tout simplement.
Oui, mais ça, c'est une autre preuve de ce que je disais, de ce cercle qui se resserre et qui s'auto-justifie et qui devient presque autiste par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que la Russie est un pays qui a des diplomates de grande qualité. Donc, il y a les informations, il y a des instituts spécialisés par différentes régions du monde. Et donc, c'est pour moi un nouveau signe de l'isolement de Poutine avec un tout petit cercle autour de lui. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui lui disent ce qu'il veut entendre, mais ce sont des gens qui partagent une image très rétrécie du monde, assez paranoïaque. Et donc, ils ont été très, j'imagine très bien qu'ils pouvaient être capables de dire les Américains nous préviennent, mais c'est pour nous déstabiliser ou parce qu'il se passe autre chose, ils ne sont pas crédibles.
Qu'est-ce que ça augure justement, alors, ce repli de ce petit cercle restreint autour de Vladimir Poutine dans la tectonique des plaques actuelles, dans le contexte qu'on connaît, un événement comme ça, qu'est-ce que ça augure? Ça pourrait accélérer, être source de tensions encore plus sur le conflit ukrainien?
C'est un peu difficile d'aller plus loin pour le moment. Je crois ce serait plutôt un mécanisme qui permet une auto-justification. Parce que dans le genre escalade, je ne vois pas très bien quelle escalade on pourrait faire pour le moment. Et donc, je suis assez curieuse de voir s'il va y avoir cette espèce de retournement et de discussion avec les Occidentaux et les pays arabes. Il ne faut pas oublier, il y a la question de Gaza aussi, où on voit très peu les Russes, mais ils ont des contacts avec tous ces dirigeants arabes de façon discrète et des groupes aussi. Et donc, il y a une possibilité de voir une récupération au bon sens du terme, donc une utilisation politique d'un événement qu'on n'a pas créé.
Ça explique un peu sa retenue dans ses déclarations, depuis vendredi soir. On a peu entendu Vladimir Poutine, hier il n'était pas présent physiquement d'ailleurs pour se recueillir. Ça explique peut-être ça en fait, on cherche la stratégie géopolitique à assurer.
La stratégie géopolitique, la stratégie politique aussi. Et puis, il faut quand même pas oublier que la société russe et les dirigeants russes ne sont pas encore entrés dans la civilisation du spectacle comme chez nous, où maintenant on trouve normal que le Premier ministre ou que le Président se rue dès qu'il y a un incident quelque part. La Russie n'a pas intégré cette forme dans un sens, elle est encore... très peu occidental dans ce sens de l'image. Et donc, je ne trouve pas surprenant que Poutine ne soit pas manifesté et que quand il l'est fait dans le contexte de cette église où c'était finalement ce que les gens font. Ils vont mettre une bougie, ils font une croix. Donc, je ne vois pas... Il ne faut pas non plus exagérer dans le sinistre.
L'État russe qui est passé maître quand même dans la désinformation et les fake news, est-ce que c'est en train déjà d'être instrumentalisé, y compris politiquement par l'État russe? On n'a pas été à l'abri dans d'autres situations d'une manipulation de certains attentats pour justifier des interventions, notamment en Tchétchénie. Tout ça a été montré, illustré. Est-ce qu'on est face à ce cas-là?
Non, je ne crois pas, parce que d'abord, ils n'en ont pas besoin. Parce que... qui que ce soit qui l'ait fait, ça ne va pas déclencher tout à coup une révolution politique ou géopolitique en Russie. Non, donc il faut quand même pas... On a toujours tendance à confondre les causes et les effets. Donc vous pouvez avoir des causes sur lesquelles vous n'avez aucune prise, donc vous n'avez pas eu d'initiative, et puis vous vous dites qu'est-ce que je peux en faire maintenant que c'est arrivé. Et donc c'est ça qu'il faut laisser un peu de temps. Et je suis extrêmement curieuse de voir ce qui va se passer dans les jours prochains. Et pour voir justement comment cet attentat va être utilisé.
Et la désinformation a déjà lieu au sein de la société russe, dans les médias. Vous avez le sentiment que certains essayent de dessiner des pistes qui ne sont pas du tout prouvées pour l'instant par les faits.
Bon, les Russes sont des grands conspirateurs. adopteur ou adhérent de toutes les théories possibles et imaginables. Je crois que c'est le résultat des systèmes fermés. Comme les gens n'ont pas d'informations sérieuses, ils adorent tout ce qui est théorie de la conspiration. Et puis moi, je sais. Jusqu'à présent, je trouve qu'on a vu pire comme gestion d'informations publiques.
Mais donc les Russes n'ont pas accès aux mêmes informations que nous. La plupart des Russes n'ont que le canal officiel.
Non, il y a plus de la moitié des gens qui ont Internet, et tous les jeunes, ils font comme chez nous, ils vont regarder jamais un journal télévisé officiel, ils vont voir TikTok. Et donc là, toutes les images circulent.
Merci beaucoup Nina Bashkatov.